La danse des mots, Yvan Amar.
La danse des mots sur RFI qui va être à la fois sicilienne comme danse des mots, un peu italienne, un peu africaine, un peu française aussi grâce à un roman, avant qu'elle ne soit canadienne pour toute la semaine prochaine, parce qu'à partir de lundi jusqu'à vendredi, nous serons au Canada francophone, non pas au Québec, mais dans une zone dont on parle beaucoup moins, au Nouveau-Brunswick. Donc nous parlerons des états de la francophonie à Moncton, à l'Île-du-Prince-Édouard, peut-être un tout petit peu aussi à Montréal et à Québec. Mais auparavant, nous sommes à Paris avec Mohamed Mboukhar Sarr à l'occasion de la sortie de son deuxième roman qui a été publié il y a quelques semaines, qui s'appelle Silence du cœur, édité chez Présence Africaine. Bonjour Mohamed Mboukhar Sarr, merci. Bonjour. Bien de venir avec votre Silence du cœur qui s'écrit C-H-O. UR, c'est-à-dire que ce n'est pas le cœur qui bat, encore qui peut battre quand même, mais c'est un cœur beaucoup plus choral. Avec ce deuxième roman qui succède au premier, normalement, le premier qui était Terre Sainte, là aussi il y avait un jeu sur l'orthographe, Terre Sainte, C-E-I-N-T-E. Vous aimez bien ces jeux sur l'orthographe? Vous aimez bien justement qu'il y ait une sorte de clignotement entre ce qu'on entend, ce qu'on comprend et ce qu'on lit?
Bah, disons que je ne les cherche pas. Ils s'imposent d'une certaine manière. Le malheur serait que je devienne une sorte de titreur qui ne serait là que pour trouver des titres un peu ambivalents, polysémiques, etc. Mais le plus important, c'est que ça trouve sa justification dans le texte, et c'est ce que j'essaie de faire. Cependant, je ne peux pas nier que oui, j'aime bien que le titre d'un livre, s'il à défaut d'annoncer ce que le livre va dire, en tout cas intrigue assez pour qu'on l'ouvre. Le paratexte, comme on sait, est toujours extrêmement important.
Alors, il y a un prétexte, il y a une anecdote, il y a une histoire qui est solidement ancrée dans l'histoire contemporaine, puisque dans votre livre, vous retracez une sorte d'odyssée, je ne dis pas ce mot totalement au hasard d'ailleurs, d'un certain nombre de gens, 72, qui ont quitté les côtes africaines pour arriver sur les côtes siciliennes. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous êtes romancier, vous faites de la fiction, mais en même temps, vous voulez un petit peu documenter, comme on dit, la situation actuelle. Vous avez un côté documentariste, plus que journaliste, mais il y a à la fois de la fiction et du documentaire dans votre travail, Mohamed Mboukhar Sarr.
Donc je me dirais simplement romancier, c'est-à-dire que j'essaie d'une certaine manière de documenter le détail d'une histoire contemporaine qui est celle que je vis, à laquelle tout le monde assiste aujourd'hui, et je crois que c'est une histoire à laquelle aussi tout le monde aspire à comprendre quelque chose. Et cette compréhension, je crois, passe par un travail romanesque qui doit être profond, qui doit être fouillé, qui emprunte en cela au journalisme, il est vrai, mais qui a peut-être sur le journalisme l'avantage de pouvoir s'attarder sur le détail d'émotions, sur des personnages, sur des scènes, sur des dialogues qu'on ne voit pas forcément ou qu'on n'a pas le temps d'explorer lorsqu'on est un journaliste pris dans l'urgence de l'information à donner. Le romancier a en cela le privilège du temps, de la patience et parfois de l'ennui. Autant de choses que j'ai pu vivre.
Pourquoi l'ennui, Mohamed Mboukhar Sarr?
Parce que c'est une donnée, je crois, essentielle, non seulement à l'écriture, mais aussi à la compréhension du réel. Je crois qu'il faut pouvoir intégrer cette donnée-là, celle de l'ennui, au réel, parce que c'est quand même une dimension fondamentale de notre vie, et précisément de cette crise migratoire dont on parle beaucoup.
Pourquoi?
Parce que dans le petit village où je suis allé, en Sicile, les migrants, enfin en tout cas ces jeunes-là, ces réfugiés que j'ai eu l'occasion de rencontrer, ils s'ennuyaient, ils s'emmerdaient ferme. Ils étaient comme des personnages du désert des Tartares de Bouzati ou du rivage des Cirques de Grax, et qu'ils attendaient quelque chose dont ils ne savaient pas grand-chose, finalement.
Oui, mais dans le rivage des Sirtes, ou bien dans le désert des Tartares, on attend une guerre. Alors qu'eux n'attendent pas une guerre.
Eux,
en tout cas, pas forcément.
Pas
en tout cas,
guerre, ils attendent un événement bouleverser leur existence. Sauf que cet événement-là, ils ne savent pas quand il va arriver. Et à force de l'attendre, ils finissent par presque le perdre de vue. Et là, ils rentrent dans un ennui qui dit quand même beaucoup de choses.
Donc, c'est une vie entre parenthèses. C'est une non-vie d'une certaine façon. Ils ne sont plus là où ils étaient, ils ne sont plus dans leur lieu d'origine et ils ne sont pas encore arrivés quelque part.
C'est
une espèce de suspens du transit.
De suspension, c'est tout à fait ça. Une sorte de correspondance, de transit, un moment où on s'arrête, où on attend de continuer sans savoir si, cependant, on pourra continuer ou non.
Alors, vous inventez cette histoire, vous témoignez sur l'histoire contemporaine, tout cela se prépare. Mohamed Bougarsar, comment est-ce que vous avez travaillé sur la préparation de ce roman? Puisque vous dites que votre travail de romancier ressemble, sans être exactement identique, à celui d'un journaliste, comment est-ce que vous avez travaillé en amont?
Alors, mon travail comme romancier se situe d'une certaine manière en contrepoint, arrive en contrepoint, je crois, au travail du journaliste. Contrepoint parce que ce roman, je ne l'ai pas du tout préparé comme un documentaire qu'on prépare, avec tout son matériel qu'on amène sur le terrain, avec tout un plan, par exemple, de personnes que l'on doit interviewer, etc. Je suis allé en Sicile, dans un petit village. J'y suis arrivé un peu par hasard. C'était d'abord un voyage de vacances avec un ami poète, mais qui s'est transformé un tout petit peu par la volonté de cet ami poète en une sorte d'immersion dans un petit village au cœur des collines siciliennes.
Vous voulez dire que ce travail de préparation, il n'était pas prémédité? Vous êtes parti en vacances, vos vacances se sont transformées.
Mes vacances se sont transformées, c'est tout à fait ça. Je n'y étais pas avec l'intention d'écrire un roman sur la crise migratoire. J'y étais d'abord pour découvrir la Sicile, que je ne connaissais pas, et pour être avec un ami qui était poète et avec lequel j'avais des discussions littéraires très intéressantes sur la Sicile, notamment comme terre de mythes, comme terre de poésie, comme terre de philosophie. Et disons que ces discussions-là n'étaient pas tout à fait étrangères à ce que le roman, ce roman-là, Silence du cœur, est devenu finalement. Donc je n'y étais pas pour écrire un roman, mais il se trouve que le lieu a déclenché l'écriture du roman et les personnes évidemment que j'y ai rencontrées.
Alors à partir du moment où votre camarade justement vous décide à transformer un petit peu ce séjour de vacances au départ, qu'est-ce que vous avez fait Mohamed?
Alors à partir de ce moment-là, je me suis contenté simplement de vivre les choses. Cela paraît banal, mais je ne pense pas que un romancier soit une sorte de démiurge qui, à tout moment, serait capable de tirer d'une situation son potentiel littéraire. Je crois que je suis, en tout cas, il y a peut-être des romanciers qui sont comme ceux que je viens de décrire, mais je ne suis pas de cette catégorie-là, pour la simple raison que lorsque je vis un événement, je n'ai pas assez de recul ni la lucidité nécessaire. Et l'écriture est toujours le lieu de l'élucidation, c'est le lieu où les choses m'apparaissent clairement, où je peux les analyser, où je peux les tenter de les comprendre, si vous voulez.
Mais concrètement,
mais sur place, concrètement, je jouais au foot avec des réfugiés, je mangeais avec eux, j'allais prendre le thé avec eux, ils m'invitaient dans leurs appartements, me racontaient leur trajectoire, me disaient d'où ils venaient, me disaient ce qu'ils espéraient, me disaient leur amertume aussi d'être là, bloqué, s'ennuyant, contenant en eux une sorte d'énergie qui était jeune, qui était vive, mais qui n'arrivait pas à s'exprimer parce que tout simplement, ils étaient soumis à la lenteur de l'administration, à son incertitude aussi. Donc moi, j'étais là avec eux, pas vivant comme eux, parce que ce serait vraiment faire injure à la puissance de ce qu'ils vivent comme expérience, mais étant spectateur de cette expérience-là et tentant chaque soir après de les consigner dans des carnets qui sont ensuite devenus...
Donc vous avez pris des notes en fait. C'est là que ça commence à être un vrai travail préliminaire à l'écriture romanesque.
C'est ça.
Vous n'avez pas uniquement fait confiance à votre mémoire.
Non, parce qu'elle est très mauvaise.
Et dans ces notes, est-ce qu'il y avait déjà une préfiguration d'une intrigue ou bien c'était des notes brutes de décoffrage
notes...
ce que vous aviez entendu dans vos conversations avec ces jeunes migrants?
C'était des notes vraiment brutes, sans ordre, ni élucidation, ouais. Parce qu'elles étaient vraiment prises sur le vif, comme on dit. Et le travail après, et c'est là que commence le véritable travail du romancier, c'est dans, oui, la stylisation des notes qu'on a prises.
Ces notes, vous les avez prises en français, Mohamed ?
Je les ai prises en français.
Alors que vos conversations...
Sauf pour les quelques remarques que des migrants ont pu me donner dans leur langue nationale, celle que j'avais, que je pouvais comprendre en tout cas, puisqu'il y avait parmi eux des Sénégalais.
Oui, donc vous avez parfois parlé Wolof,
oui.
Parfois parlé SRR peut-être,
oui.
Ou d'autres
oui.
Langues, je ne
oui.
Sais pas si vous en connaissez d'autres, des langues
qui
sont en usage
au Sénégal. Des petits mots en Bambara ou quelques-uns en Soninké, des mots vraiment, ou en Djola, ouais. Des choses banales, usuelles pour saluer, taquiner, etc.
Alors que le SRR ou Wolof sont des langues que
vous
connaissez.
Que je parle vraiment oui, bien.
La danse des mots, toujours avec vous, Mohamed Mbougarsar, à propos du Silence du cœur, ce livre que vous venez de faire paraître aux éditions Présence Africaine, et dont j'aimerais bien citer un court extrait pour vous interroger là-dessus. Alors, il s'agit de l'un des personnages principaux, mais il n'y a pas vraiment un ou deux héros dans votre roman. Mais il y en a un qui parle comme ça. Il voyait dans la traduction une métaphore de la condition des hommes, ce qui symbolisait peut-être le mieux ces deux mouvements contraires dont la tension se trouvait au cœur de leur vie. D'un côté, l'impossibilité à communiquer une part de l'essentiel, l'échec du langage devant l'énigme humaine, et de l'autre, malgré tout, la tentative désespérée par le langage, sinon de nommer cette énigme, au moins de l'approcher. Échec et espoir. La traduction n'est pas autre chose. Elle implique toujours un échec, une catastrophe préalable, celle de l'incompréhension. Car si l'on a besoin de traduire, c'est que deux hommes au moins ne se comprennent pas ou ne sont pas compris, et cette incompréhension actée, consommée, irrattrapable est un désastre. Le symbole d'une communauté irrémédiablement perdue, d'un malentendu originel. Mais si elle est le signe que quelque chose s'est perdu, la traduction est aussi la promesse qu'autre chose sera recréée. Traduire, c'est d'un même geste faire le deuil d'une langue première et le pari d'en ériger une autre sur ses cendres. Qu'a-t-il de mieux pour les hommes ? Avoir une seule langue qu'ils parleraient tous ou plusieurs langues qui pourraient se traduire entre elles ? Alors, j'arrête parce qu'on n'a pas le temps d'aller plus loin. Pourtant, c'est intéressant. Vous avez une jolie image après à propos de Babel et de la verticalité de Babel, cette tour de Babel qui... d'après la Bible, a été détruite par l'Éternel qui n'en voulait pas et qui a été remplacée par une construction non pas verticale, mais horizontale qui pourrait permettre que les hommes se comprennent tous. Est-ce que vous, romancier de votre époque, romancier du 21e siècle, vous avez d'une certaine façon vocation à être traducteur ?
Eh bien... Ça, c'est une question extrêmement compliquée parce que, évidemment, je peux dire que oui, je suis une sorte sorte, en tout cas j'essaie d'être une sorte de traducteur, mais c'est une traduction qui serait celle d'émotion ou celle de sentiments qui ne seraient pas exprimés comme
traducteur métaphorique. Donc.
Traducteur métaphorique, mais je ne prétends nullement être un traducteur au sens véritable, strict et très beau du terme, qui serait celui de passeur entre deux langues. Pour ça, il y a de véritables traducteurs, et la raison pour laquelle d'ailleurs la question de la traduction est si présente dans le roman, c'est que dans le petit village où j'étais, elle était omniprésente également, étant donné qu'il y avait beaucoup de traducteurs, qu'il y avait beaucoup de langues qui se côtoyaient, non pas simplement entre Italiens, Siciliens qui accueillaient et réfugiés qui arrivaient, mais entre les réfugiés eux-mêmes, il y avait différentes langues, et tout ça ressemblait à une sorte de Babel. Donc il y avait parmi les réfugiés des traducteurs, des gens, des jeunes qui parlaient plusieurs langues. Mais moi, non, je ne suis pas un traducteur, j'aimerais beaucoup, mais je n'en ai pas encore les capacités.
Alors, à côté de cette multiplicité des langues, il y a une multiplicité des voix qu'on a dans votre roman, et même une multiplicité des typographies. Vous avez une typographie du récit, une typographie du journal intime de l'un des personnages importants, et de temps en temps, il y en a d'autres en italique qui suggèrent justement un point de vue encore différent. C'est parce que vous aviez envie, peut-être pas de brouiller les pistes, mais en tout cas de donner plusieurs regards, plusieurs perspectives et plusieurs orientations.
Oui, il y a plusieurs genres dans le roman, et c'est une chose à laquelle je tiens beaucoup. J'estime que le roman est le genre ouvert par excellence, c'est-à-dire celui qui aujourd'hui peut recevoir tous les autres genres, qu'il s'agisse de la poésie, de l'essai, du théâtre, genre d'ailleurs, le théâtre, avec lequel ce roman est en dialogue. En tout cas, je l'ai écrit ainsi, dans un dialogue avec le théâtre, d'où le mot de cœur, notamment. Mais pour moi, il est important de multiplier les points de vue et, en effet, les genres, pour donner autant de vues, de perspectives sur une situation qui est complexe et dont la complexité, je crois, peut être rendue dans le roman par ce procédé de multiplication.
Alors en effet, on peut penser au théâtre, bien que la forme en soit très peu présente. Il y a quelques dialogues, bien sûr, mais ça ne fait pas tellement penser au théâtre. Bon, il y a cette idée du cœur, ça fait parfois penser à l'épopée. Ça fait penser à l'épopée parce que vous avez l'un des personnages, par exemple, qui arrive, qui se souvient de son arrivée épuisée au bord de la mer et qui rencontre une estivante, en tout cas une baigneuse, à qui il fait peur. Et bien sûr, à quoi on pense quand on voit ça? On pense à Ulysse qui arrive et qui rencontre Nausicaa. Alors Ulysse, il vient de passer des heures à lutter contre la mer, il s'en est sorti de justesse, il est sale, il est pas rasé, il est tout broussailleux, et il rencontre évidemment Nausicaa, la fille du roi, celle qui a les bras blancs, hein, le col aîné, oui. Nausicaa, et il lui fait peur. Mais Nausicaa, qui a un grand cœur, va l'accueillir, le présenter à son père, etc., et lui sauver la vie. Il y a un clignotement.
Oui, il y a un écho assez clair à un certain nombre de mythes fondateurs de la littérature occidentale, européenne. Il y a évidemment Ulysse, donc l'Odyssée, mais il y a aussi l'Énéide de Virgile, où un semblable épisode se reproduit avec Énée qui fuit Troie, complètement
enquis sur ses épaules, et
Ascagne à son bras, et qui arrive et rencontre Didon.
Ouais. Et donc, lui, il est parti avec son père et son fils. Voilà, trois générations.
Voilà. Donc, je crois qu'il est important sur cette question de la crise de retrouver d'anciens grands textes qui disaient d'une certaine manière pas la même chose. Ce n'est pas vrai. Virgile ou Homère n'avaient pas en tête ce qui se passerait aujourd'hui. Mais en tout cas, ces textes peuvent nous donner des armes, des instruments pour penser ce qui nous arrive. Et surtout fixer cette question de la migration dans une généalogie qui est très longue, qui est très ancienne.
Chi fini brutta fanno i confrenti, chi di nascosto fanno i cantanti, si credono chi mai si sapnenti. c'ha davanti.
Mohamed Bougarsar, merci encore d'être l'invité de la Danse des mots, puisque vous êtes venu pour nous parler du silence du cœur, ce texte que vous avez fait publier récemment aux éditions Présence Africaine, et dont on disait tout à l'heure, c'est pas pour faire un jeu de mots un peu facile, mais que c'était un roman choral. En effet, le cœur, C-H-O-E-U-R, il est extrêmement présent dans la structure de votre texte. Tout de suite, vous avez voulu faire un roman qui n'est pas un héros qui prenne toute l'attention.
Oui, c'est ce que j'ai voulu faire. D'ailleurs, il y a une formule dans le roman où, à un moment, dans l'une des scènes, il y a une phrase qui dit que c'était une scène où il n'y avait pas de coulisses, une scène où chacun avait sa place. D'une certaine manière, même si je sais que c'est très vain, c'est impossible, j'ai voulu faire en sorte que chaque personnage à son apparition soit un personnage principal et qu'il n'y ait pas d'une certaine manière des personnages secondaires dont la présence serait insignifiante ou purement décorative, si vous voulez. Donc oui, il y a une volonté de donner de l'importance à ce que chaque personnage pense et fait, même ceux qui sont hostiles à la présence de migrants ou de réfugiés, parce que ils peuvent avoir dans leur pensée, dans ce qu'ils disent, des choses qui sont intéressantes et qui font que la situation est prise dans toute sa difficulté, dans toute sa complexité et n'est pas caricaturée. Et je crois que la littérature, nous ne devons pas, comme disait Gide, ne pouvons pas se faire avec des bons sentiments. Il faut aussi pouvoir donner de la place à des personnages ou à des idées qui ne sont pas forcément.
Oui, il n'y a pas, uniquement des héros positifs dans votre roman. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'on ne voit pas uniquement les migrants. Une grande place est donnée à tous ceux qui les accueillent, c'est-à-dire aux Italiens et aux Siciliens qui sont là, ceux qui, avec cette organisation Santa Marta, les accueillent avec une générosité merveilleuse, ceux qui sont plus neutres, puis ceux qui sont furieux, et puis qui existent aussi, et dont il faut comprendre à la fois les motivations, le pourquoi, les craintes et les actions.
Tout à fait, c'est tout à fait ce que j'ai essayé de faire, parce que il se trouve que dans les motivations de personnes qui étaient plus hostiles à la présence de réfugiés, il n'y avait pas qu'une sorte de haine viscérale, raciste, complètement homophobe parfois. Il y avait aussi des choses que l'on pouvait tenter de comprendre, des choses auxquelles on pouvait tenter d'apporter des réponses, des arguments, et une discussion pouvait se nouer. Mmh. Et l'une des idées de ce livre, c'est aussi que cette crise migratoire ne se résoudra pas seulement avec de la charité. Voilà, ce n'est pas seulement comme ça que ça se passera. Il faut aussi beaucoup de lucidité et de responsabilité, notamment de la part des pays d'origine.
Bien sûr, et chaque pays d'origine a son histoire propre. Et vous rendez justice à l'histoire italienne, par exemple, en mêlant l'histoire des clubs de foot avec l'hostilité aux réfugiés, dont on sait qu'en effet, ça s'appuie sur une donne tout à fait établie.
Tout à fait. Enfin, étant donné que je suis moi-même un grand amateur de football, je n'ai pas pu rater, en effet, qu'il y avait parfois des liens entre des franges extrêmement violentes, ultra, comme disent des tifosi italiens, et puis une sorte de nationalisme exacerbé dont la conclusion logique était, oui, une méfiance vis-à-vis de toute forme d'intrusion ou d'invasion, comme ils disent, extérieure.
Alors, vous parlez de conclusion logique. Votre roman, il en a eu une conclusion, puisque c'est un roman. Donc, il faut qu'il y ait une chute. C'est une chute imprévue. On va pas trop dire ce que c'est, mais elle est bien parce qu'on s'y attend pas d'une certaine façon. On se dit bon bah ça va finir comme ça va commencer. Puis non, il y a un événement. Alors cet événement, même si on ne dit pas quel il est, mais cet événement imprévu et assez cataclysmique. Pour terminer le roman, vous en avez eu l'idée tout de suite qu'il fallait justement qu'il y ait une espèce de d'explosion finale pour mettre un point final.
C'est une idée qui m'est venue très tard finalement dans le roman, mais je dois quand même dire que lorsque j'étais en Sicile, elle commençait déjà à s'infuser dans mon esprit, tout simplement lorsque je mesurais la sorte de déférence que les Siciliens pouvaient avoir pour leur terre, pour les grands symboles de leur terre. Et l'idée de donner une parole à la terre a commencé à germer dans mon esprit, mais ce n'est que qu'en écrivant que je me suis dit qu'il ne pouvait y avoir de conclusion que celle-là, en fin de compte.
Eh ben, merci beaucoup Mohamed Bougarsar, merci pour ce roman volcanique qui s'appelle Silence du cœur et dont je rappelle qu'il est publié tout récemment chez Présence Africaine. Merci bien d'avoir été avec nous, l'invité de cette danse des mots, une émission proposée par le réseau Canopée et par RFI, Nicolas Jean-Jean, Valentine Brasselet, Lucie Bouteloup, Véronique Durand, Yvan Amard.